VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, édition du vendredi 8 octobre 2021. Jean-Roger Billon à ce micro. Bonsoir à tous. À la une de nos informations, ouverture aujourd'hui à Montpellier du sommet Afrique-France. Les jeunes Africains ont exprimé leurs attentes et leurs frustrations sur la démocratie et la relation avec la France. Au Mali, des assises nationales avant de fixer la date des élections. Ces rencontres commencent le 25 octobre et s'achèveront le 21 novembre, selon la junte au pouvoir à Bamako. Au Nigeria, les forces de sécurité libèrent près de 200 personnes enlevées. Un sauvetage qui s'inscrit dans le cadre d'une vaste opération militaire menée depuis plusieurs semaines dans l'état de Zamfara et d'autres états du Nord-Ouest. Le Nobel de la paix récompense deux journalistes et met à l'honneur la liberté de la presse. Ne manquez pas dans cette session d'information la Minute Éco et les sports, mais tout d'abord le journal. Le sommet Afrique-France s'est ouvert ce vendredi à Montpellier en France. Venus de tout le continent, mais aussi de la diaspora, de jeunes Africains ont exprimé sans phare leurs attentes et frustrations sur la démocratie et la relation avec la France, interpellant directement le président Emmanuel Macron lors de ce sommet inédit qui privilégiait la parole de la société civile. Les précisions de John Lindon.
De part et d'autre. Arrivé en fin de matinée, Emmanuel Macron, hôte et unique président de ce sommet sans chef d'État, est passé de table ronde en table ronde avant une plénière prévue dans l'après-midi. Mais le sujet sur le stand consacré aux restitutions d'œuvres pillées et mettant en œuvre un engagement pris en novembre 2018, le président français a annoncé que son pays redonnerait fin octobre au Bénin 26 œuvres d'art provenant du trésor des Béhanzins pillées au palais d'Abomey en 1892 pendant les guerres coloniales. Le président a été interpellé à plusieurs reprises par des participants. « Je n'en peux plus de voir la jeunesse africaine mourir dans la mer Méditerranée pour gagner l'Europe », lui a lancé une femme. Pour la première fois depuis le début des sommets Afrique-France en 1973, cette rencontre exclut les chefs d'État du continent. Venus du Burkina Faso, du Mali, de la RDC, du Cameroun ou encore du Maroc, les jeunes invités de la société civile avaient beaucoup de choses à dire à la France, concernant notamment l'héritage colonial, la politique des visas ou encore l'aide au développement. Pas moins de 3000 personnes ont été conviées à l'ouverture de ce sommet.
Au Mali, le gouvernement a annoncé des assises nationales de la refondation du 25 octobre au 21 novembre. À l'issue de ces assises, les autorités devront se prononcer sur un report ou non des élections. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Ces assises commenceront au niveau local du 25 au 31 octobre avant de s'étendre aux régions, au district de Bamako et à la diaspora selon un document du ministère malien de la Refondation. Après une synthèse de ces rencontres décentralisées, les assises se tiendront au niveau national à Bamako du 15 au 21 novembre. Le calendrier de transition annoncé en avril dernier prévoit un référendum constitutionnel le 31 octobre, des élections régionales et locales le 26 décembre, puis le premier tour de la présidentielle et des législatives le 27 février 2022. Le premier ministre de la transition, Choguel Kokala Maïga, a évoqué en septembre un possible report de ces scrutins. La décision sera prise à l'issue de ces assises nationales qui permettront de fournir un agenda plus détaillé, a déclaré M. Maïga en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. La communauté internationale exprime son inquiétude face à l'éventualité d'un retard dans la tenue des élections présidentielles et législatives et le rétablissement d'un pouvoir civil élu.
Le congrès constitutif du nouveau parti politique de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo se tiendra les 16 et 17 octobre à Abidjan, a annoncé aujourd'hui le comité d'organisation. 1600 délégués sont attendus à ce congrès, a déclaré Sébastien Danon Djedje, responsable du comité d'organisation, en précisant que Simone Gbagbo y était attendu. Laurent Gbagbo, fondateur du Front populaire ivoirien FPI, miné par les divisions, avait proposé début août la création d'un nouveau parti politique, accusant son ancien premier ministre Pascal Affine Nguessa d'avoir confisqué le parti. Les forces de sécurité nigériennes ont libéré près de 200 otages de bandits, ces gangs de criminels qui terrorisent le nord-ouest du Nigeria depuis de longs mois. Les détails avec Ginny Kapumbu-Villa.
187 hommes, femmes et enfants ont été libérés après de nombreuses semaines en captivité, a déclaré la police jeudi soir. Les otages avaient été enlevés lors de plusieurs attaques par des gangs lourdement armés qui sévissent depuis des années dans le nord-ouest et le centre du Nigeria. Selon le porte-parole de la police locale, ce raid s'inscrit dans le cadre d'une vaste opération militaire qui a permis la capture de quelques 300 bandits depuis plusieurs semaines dans l'état de Zamfara. Les autorités disent avoir notamment coupé les télécommunications afin de perturber les communications des criminels qui trouvent refuge dans les forêts. Malgré la libération d'une centaine d'écoliers, des dizaines d'autres sont toujours retenus en otage. Les bandits attaquent, pillent et procèdent à des enlèvements dans des villages et notamment dans des écoles pour exiger des rançons.
Le président sierra-léonais Julius Maada Bio a promulgué ce vendredi l'abolition de la peine de mort. Cette promulgation fait suite au vote le 23 juillet par l'Assemblée nationale de la loi d'abolition remplacée par une peine d'emprisonnement à perpétuité ou à un minimum de 30 ans. La constitution sierra-léonaise de 1991 prévoyait la peine capitale pour le vol aggravé, le meurtre, la trahison et la mutinerie. La Sierra Leone est le dernier pays africain en date à abolir la peine capitale après le Malawi en avril et le Tchad l'année dernière. RDC, 8 enlèvements en 2 jours. 4 personnes ont été enlevées jeudi dans le parc des Virunga, dans le nord Kivu, dans l'est du pays, 2 jours après l'enlèvement de 4 autres personnes, dont 3 humanitaires, dans la province voisine du sud Kivu. Les enlèvements ciblant les travailleurs humanitaires ne sont pas rares dans la région. Les miliciens et rebelles s'attaquent aux civils malgré des opérations militaires qui sont en cours dans cette région orientale du pays depuis bientôt 25 ans. Le Burundi, l'un des derniers pays au monde à ne pas avoir encore commencé à vacciner sa population contre le COVID-19, a annoncé jeudi qu'il devrait recevoir ses premiers vaccins dans les prochaines semaines. L'OMS a donné 2,4 millions de doses de vaccins au Burundi, où la vaccination se fera sur la base du volontariat, a indiqué le ministre de la Santé, Thaddée Ndikumana. Seuls 2 pays africains n'ont pas encore commencé de campagne de vaccination contre le COVID-19, le Burundi et l'Érythrée. L'Afrique du Sud et le Kenya ont été retirés de la liste rouge COVID-19 de l'Angleterre, au même titre que 7 pays d'Amérique latine. Les voyageurs en provenance de ces pays ne seront donc plus tenus de rester en quarantaine dans un hôtel pendant 10 jours et à leurs frais à leur arrivée sur le sol britannique. La mesure qui entrera en vigueur dès lundi vise à relancer le secteur des voyages et à donner un coup de pouce à l'industrie aérienne, mais à permettre aussi un rapprochement plus facile des familles séparées par la pandémie. Les préparatifs pour l'organisation des élections présidentielles et législatives en Libye touchent à leur fin, malgré la discorde politique qui menace la tenue de ce double scrutin, affirme Imad Al-Sayed, le chef de l'autorité électorale. Les préparatifs techniques ont été finalisés à 80, voire à 90%, assure le directeur de la Haute Commission électorale. Les 2 scrutins devaient initialement se tenir le même jour, le 24 décembre, mais le Parlement en a modifié le calendrier mardi. La présidentielle aura bien lieu à cette date, mais les législatives se tiendront un mois plus tard.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le prix Nobel de la paix 2021 a récompensé vendredi 2 journalistes d'investigation, la Philippine Maria Ressa et le Russe Dmitry Muratov, pour leur combat courageux en faveur de la liberté d'expression. Marius Munga.
Jamais la liberté de la presse n'avait été ainsi honorée par l'Académie suédoise. Des journalistes n'avaient plus été distingués depuis le prix accordé à l'Allemand Karl von Otesky en 1936. Déjà lauréate du prix de la liberté de la presse de l'UNESCO, Maria Ressa, directrice du site d'information Rappler, âgée de 58 ans, a publié des enquêtes très critiques sur le président philippin Rodrigo Duterte, au pouvoir depuis 2016. Rappler s'est notamment intéressé aux milliers des cas d'exécution extrajudiciaire dénoncés dans l'archipel. Elle a été condamnée à 6 ans de prison pour diffamation, une peine qui a fait l'objet d'un appel. Dmitry Muratov, 59 ans, est rédacteur en chef du journal d'investigation russe Novaya Gazeta, qui est très critique envers Vladimir Poutine et a publié plusieurs enquêtes sur les violences en Tchétchénie, le conflit ukrainien et la corruption en Russie. Le Kremlin a pourtant salué vendredi le travail de Dmitry Muratov et lui a adressé ses félicitations. Le comité Nobel a souligné que les 2 lauréats sont les représentants de l'ensemble de journalistes qui défendent cet idéal dans un monde où la démocratie et la liberté de la presse sont confrontés à des menaces croissantes.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé aujourd'hui à défendre la liberté de la presse dans le monde après l'attribution du prix Nobel de la paix aux journalistes Maria Ressa et Dmitri Muratov. L'ONU s'est inquiétée vendredi du déploiement massif de troupes et d'armes lourdes dans plusieurs états de Birmanie, faisant naître des craintes pour la population civile, également privée d'accès à Internet. Cela représente une escalade dans la situation, a mis en garde Ravina Shamdazani, une porte-parole du Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme, lors d'un point de presse à Genève. Le pays d'Asie du Sud-Est est en proie au chaos depuis que l'armée a renversé le gouvernement civil d'Aung San Suu Kyi en février, déclenchant des manifestations monstres en faveur de la démocratie qui ont été réprimées dans le sang. Voilà pour le journal, vous écoutez VOA Afrique. À présent, la Minute Écho avec Rosine Munizero.
L'Association mondiale des opérateurs de téléphonie, GSMA, estime que les opérateurs télécoms investiront 45,2 milliards de dollars dans le réseau mobile en Afrique subsaharienne d'ici 2025, rapporte l'agence Ecofin. GSMA estime que le réseau mobile sera le principal moyen d'accès d'une grande partie de la population africaine, en majorité en zone rurale, à l'économie numérique. Des investissements qui seront consacrés d'ici 2025 justifient l'importance croissante de cette technologie comme une réponse aux crises. L'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE, étudie sur les derniers obstacles sur la taxation mondiale des multinationales, censée lutter contre les stratégies d'optimisation permettant aux grandes entreprises d'échapper en partie à l'impôt. Des ONG et certains économistes critiquent le texte pour son manque d'ambition et les inégalités qu'il entraînerait. D'après l'ONG Oxfam, avec un taux d'imposition à 15%, les recettes fiscales supplémentaires dégagées bénéficieront pour les deux tiers aux pays riches du G7 et à l'Union européenne. Les pays les plus pauvres récupéreront moins de 3%.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouédraogo.
Bonsoir à tous. Les matchs des 3e et 4e journées des qualifications au Mondial 2022 Zone Afrique se poursuivent ce vendredi. La Côte d'Ivoire a disposé du Malawi 3-0. À suivre toujours ce soir, Burkina Faso, Djibouti, Égypte, Libye. L'Algérie reçoit le Niger hier. La République démocratique du Congo a disposé de Madagascar 2-0, 1-0 pour le Bénin devant la Tanzanie. Le Cap-Vert a battu le Libéria 2-1. Victoire surprise de la République centrafricaine face au Nigeria 1-0. La Guinée équatoriale a battu la Zambie 2-0. La Tunisie a eu raison de la Mauritanie 3-0. Le Mali a pulvérisé le Kenya 5-0. Courte victoire du Rwanda face à l'Ouganda 1-0. En Europe, la finale de la Ligue des Nations opposera l'Espagne à la France dimanche. L'équipe de France a signé une dernière demi-heure intense pour surpasser une Belgique revancharde 3-2 lors de la deuxième demi-finale disputée au stade de la Juventus en Italie. En France, justement, entouré de sa famille, des supporters de l'Olympique de Marseille et de plusieurs joueurs qui l'a conduit sur le toit du football européen, l'ancien ministre et homme d'affaires Bernard Tapie, décédé dimanche de cancer à Paris, a effectué sa dernière étape ce vendredi à Marseille, sa ville de cœur. Changement d'air pour Newcastle, un fonds saoudien s'est officiellement emparé du club de football anglais au terme de longues négociations et malgré l'opposition d'associations de défense des droits humains, le montant de la vente s'élève à environ 333 millions d'euros selon les médias britanniques. Le club appartenait depuis 14 ans à l'homme d'affaires britannique Mike Ashley. Il est désormais détenu par un consortium comprenant le fonds d'investissement saoudien, PCP Capital Partners et les frères David et Simon Ruben. Rachat, qui a reçu le feu vert de la Premier League cette dernière, a été interpellé par Amnesty International, l'ONG s'alarmant d'une reprise par un fonds souverain d'Arabie Saoudite et qualifiant la situation des droits humains de désastreuse dans le pays dirigé de fait par le prince héritier Mohamed Ben Salman. Athlétisme, la sprinteuse nigériane Blessing Ugbabare, suspendue pour dopage le jour des demi-finales du 100 mètres des JO de Tokyo, se voit aussi reprocher un contrôle positif à l'EPO plus tôt dans la saison, a annoncé l'unité d'intégrité de l'athlétisme. Parmi les outsiders du 100 mètres, la vice-championne olympique du saut en longueur 2008 a été suspendue provisoirement et exclue des Jeux olympiques juste avant les demi-finales pour dopage à l'hormone de croissance, suite à un contrôle réalisé hors compétition le 19 juillet en Slovaquie. L'unité d'intégrité de l'athlétisme précise dans un communiqué que la sprinteuse a aussi été contrôlée positive à l'EPO suite à la réanalyse d'un échantillon prélevé hors compétition au Nigeria le 20 juin. L'athlète nie tout ce qui lui est reproché et son cas sera porté devant le tribunal disciplinaire, précise le communiqué.
Page des sports signée Yakuba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Le nouveau sommet Afrique-France lancé par le président français Emmanuel Macron fait place cette année à la jeunesse et à la société civile africaine. Cependant, certains grands noms de la société civile africaine n'ont pas été invités, comme l'organisation Loucha de la République démocratique du Congo. Jenny Kapumbu-Villa s'est entretenue avec Jacques Isango, porte-parole de la Loucha.
Nous pensons que l'organisation n'a pas été invitée tout simplement parce que le gouvernement français n'a pas pu associer des gens qu'il qualifie d'opposants, sachant que la Loucha est parmi les organisations qui tiennent la tête à ce que nous qualifions d'une nouvelle dictature dans notre pays, avec le forcing de certaines dispositions légales et aussi et surtout avec la nomination à la tête de la centrale électorale, donc la commission électorale indépendante, la CENI, où M. Tshisekedi voudrait à tout prix mettre en tête l'un de ses proches, mais aussi la nébuleuse question sur la nouvelle taxe sur les téléphones mobiles appelée le registre des appareils mobiles, RAM, qui aussi est une question controversée dès lors que ce sont des proches du président de la République qui soutiennent cette idée et pendant que la majorité de la population et même l'Assemblée nationale a rejeté. Donc, pour nous, nous pensons que la question de notre absence est due justement à la manière dont nous sommes en train de fustiger la gouvernance de M. Tshisekedi. Et du coup, notre organisation est ciblée parmi les organisations, donc comme étant opposant en fait au régime.
Le président Macron a été plusieurs fois interpellé sur les restrictions de visa, le traitement des migrants, la restitution des œuvres d'art, par exemple. Quel aurait été le sujet que votre organisation aurait voulu aborder?
Notre organisation allait justement aborder sur des questions purement démocratiques, mais aussi sur des questions de libertés fondamentales liées à tout être humain, que ce soit français ou africain, et en particulier congolais, mais aussi sur des questions liées à ce que nous qualifions du néocolonialisme et que la France-Afrique veut perpétuer dans notre continent. Souvenez-vous qu'il y a beaucoup d'organisations africaines qui ont été contre cette nouvelle politique, en fait, coloniale, institué par la France, et du coup la lutte allait revenir ou rebondir là-dessus pour dire que les États africains ne sont pas des succursales des États européens ou de la France, voire même de l'Occident.
France-Afrique, Afrique-France, est-ce que selon vous ce sommet est un pas dans le bon sens entre les relations de la France et la jeunesse africaine?
Ce que nous craignons, c'est qu'avec ce sommet, que les jeunes Africains soient manipulés et soient à la merci de la France pour effectivement asseoir la domination française dans notre continent. C'est juste ça ce que nous avons comme crainte, parce que nous ne savons pas les vraies questions si réellement des gens qui sont invités à participer à ce sommet seront vraiment à la hauteur ou vont effectivement parler des problèmes liés à notre continent. Aucun pays au monde ne peut venir développer notre continent si ce n'est que nous-mêmes.
Jacques Isango, porte-parole de la Loucha, organisation de la société civile en RDC.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique en RDC sur 97.4 à Bukavu.
Au Burkina Faso, le procès de l'assassinat en 1987 lors d'un coup d'État de Thomas Sankara, ex-président, s'ouvre le lundi 11 octobre devant le tribunal militaire de Ouagadougou. Le procès va se tenir en l'absence du principal accusé, l'ancien président Blaise Compaoré, qui avait pris le pouvoir lors du putsch de 1987 et s'y est maintenu pendant 27 ans avant d'être renversé à la suite d'une insurrection populaire en 2014. Pour justifier cette absence, les avocats dénoncent un procès politique devant une juridiction d'exception.
Pour une analyse, Yakuba Ouedraogo, adjoint à Ouagadougou, Paul Miki Rwamba, journaliste éditorialiste à la LCA TV.
L'ouverture du procès de Thomas Sankara revêt une grande symbolique pour les Burkinabés parce que, voyez-vous, ça fait déjà 34 ans que le père de la révolution burkinabé a été donc assassiné. Et pendant tout ce temps, on a couru derrière la vérité. C'est vrai qu'il fut un temps où il était difficile de faire bouger les choses côté justice, étant donné justement le régime de l'ancien président Blaise Compaoré, qui lui est bénéficiaire d'une façon ou d'une autre justement de cet assassinat, puisque c'est lui qui l'a succédé. Donc aujourd'hui, après son départ, on a l'impression effectivement que les choses évoluent. Beaucoup de gens attendent justement de connaître la vérité autour donc de cet assassinat du 15 octobre 1997 qui a coûté la vie à Thomas Sankara et 12 de ses compagnons.
Justement, le procès va se tenir en l'absence du principal accusé, l'ancien président Blaise Compaoré, Hyacinthe Kafando, qui serait aussi l'un des cerveaux en fuite. Finalement, est-ce que ça ne sera pas juste un procès pour un procès? Les avocats de Blaise aussi disant qu'ils ne seront pas au procès.
Ce qui aurait été intéressant justement, c'était d'entendre ces personnalités que vous avez citées à la barre, l'ancien président Blaise Compaoré, Hyacinthe Kafando ou Gilbert Diendéré. Et c'était intéressant justement que ces personnalités se présentent à la barre et qu'elles puissent témoigner de ce qu'elles savent de l'assassinat de Thomas Sankara. Mais quand cela détient, il y a quand même d'autres personnes qui vont certainement comparaître. Et on saura peut-être à travers les explications quelles sont les responsabilités que l'on peut situer dans le cadre justement de cet assassinat crapuleux de 1997.
Pour justifier leur absence, les avocats de Blaise Compaoré dénoncent un procès politique devant une juridiction d'exception. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, il faut peut-être reconnaître à ces avocats le droit de plaider de cette manière parce qu'il s'agit effectivement d'une juridiction d'exception, le tribunal militaire de Ouagadougou. Il est également question justement du fait que c'est un procès qui risque de se passer et sans l'aspect contradictoire, ce qui est assez important en matière donc de droit. Mais bon, ce n'est pas des arguments qui conviennent trop ici au Burkina. Les gens auraient souhaité entendre Blaise Compaoré devant là-bas. Beaucoup de gens même ont estimé qu'il aurait dû venir de lui-même pour se présenter justement devant le tribunal, de s'expliquer et éventuellement d'être blanchi plutôt que de refuser de comparaître comme ce qui est en train de se passer.
La veuve de Thomas Sankara, qui vit depuis 1990 à Montpellier, dans le sud de la France, devrait assister à l'ouverture du procès. C'est aussi fort comme symbole.
Elle serait venue, ça aurait été justement une bonne chose sur le plan symbolique et une bonne chose également sur le plan de la manifestation de la vérité. Parce qu'on ne peut pas dire que Mariam Sankara ne connaissait pas les dernières paroles de feu le président Thomas Sankara. Parce que beaucoup de témoignages ont dit effectivement que lui-même il craignait d'être assassiné quelques heures avant justement le coup d'État et il savait qu'il aurait pu faire justement tout cela. Donc son témoignage à la barre aurait donc contribué justement à enrichir les discussions contradictoires et à contribuer à la manifestation de la vérité quant à l'assassinat de Thomas Sankara.
Paul Miki Rwamba, journaliste éditorialiste à LCA TV, joint à Ouagadougou.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Le président américain Joe Biden s'est rendu hier à Chicago, dans l'Illinois, pour pousser les entreprises à exiger que leurs travailleurs se fassent vacciner. Une ordonnance prise en septembre rend le vaccin anti-COVID obligatoire pour les entreprises de plus de 100 salariés. Un reportage de la correspondante de la VOA à la Maison-Blanche, relaté par Nathalie Bage.
Cette semaine, Southwest est devenue la dernière compagnie aérienne américaine à exiger que ses employés soient vaccinés contre la COVID-19. L'ordonnance de l'administration Biden exige la vaccination ou des tests hebdomadaires pour les employés des grandes entreprises, les travailleurs fédéraux et le personnel de santé. Le président Joe Biden.
Today, I'm calling on more employers.
Aujourd'hui, j'appelle plus d'employeurs à agir. Mon message est de demander à vos employés de se faire vacciner. Avec les vaccinations, nous allons enfin vaincre cette pandémie. Sans cela, nous faisons face à des mois interminables de chaos dans nos hôpitaux, des dommages à notre économie et d'anxiété dans nos écoles, avec des restaurants vides et beaucoup moins de commerce.
Le président Joe Biden était jeudi à Chicago, dans l'Illinois, pour visiter un chantier de construction géré par une entreprise qui exige la vaccination pour sa main-d'œuvre. Les experts en santé publique affirment que ces obligations ont réduit le taux d'hésitation à la vaccination. William Schaffner est spécialiste des maladies infectieuses à la faculté de médecine de l'université Vanderbilt.
De plus en plus, se faire vacciner devient une norme sociale et ces obligations nous permettent d'y parvenir.
Alors qu'environ la moitié des 50 États américains ont adopté des obligations vaccinales, certains gouverneurs républicains ont poursuivi en justice l'administration, affirmant que cette exigence viole les libertés individuelles. Un argument indéfendable selon les juristes, compte tenu des exigences pour d'autres vaccins tels que la rougeole et la polio. Stacy Lee enseigne le droit des affaires et de la santé à l'école de commerce Johns Hopkins Carey.
Les vaccins sont devenus un problème polarisant. L'idée que ce soit maintenant présenté non pas comme une question médicale, mais comme une question de liberté individuelle, a pris corps, ce qui a retardé à bien des égards une réponse gouvernementale.
Bien que le vaccin soit gratuit et facilement disponible, les centres de contrôle et de prévention des maladies rapportent que 65% de la population a reçu une première injection. Selon un sondage Gallup, 92% des démocrates disent avoir reçu au moins une injection contre 56% pour les républicains. Aux États-Unis, plus de 700 000 personnes sont mortes de la COVID-19, une étape critique marquée par une exposition de drapeaux blancs et le son des cloches de la cathédrale nationale de Washington.
Au Congo-Brazzaville, exposition et vernissage sur fond de rumba, cette musique qui est dansée sur les rives du fleuve Congo. On trouve dans le hall de l'Institut français de Brazzaville les disques en vinyle, les bandes magnétiques, les cassettes et les portraits des musiciens qui ont marqué la rumba congolaise. Les autorités des deux Congos travaillent ensemble pour que cette musique soit reconnue comme patrimoine culturel par l'UNESCO. Le reportage d'Arsène Séverin, notre correspondant à Brazzaville.
Sur ces notes de bantou de la capitale, la rumba congolaise continue d'électriser les foules depuis les années 1930. Les rives de Brazzaville et Kinshasa sur le fleuve Congo sont le berceau de cette musique qui aurait pu s'appeler Nkumba, selon le scénariste Nicolas Biti.
Ces grandes figures, on parle de Paulo Kamba, on parle de ces grands musiciens de bantou de la capitale, nous avons parlé de Mundanda, Julu Mabiala, jusqu'à arriver bien sûr à Roga Roga. À Joson, le philosophe, et tous ces jeunes, Voula et tout, qui font de la musique. Donc ça a été un grand plaisir de faire ce parcours de ce grand-là, parce que je dis que c'est très important dans la mesure où aujourd'hui la rumba qui se pratique à Brazzaville se pratique également à Kinshasa, mais il est question aujourd'hui de replacer cette rumba-là dans le temps et dans l'espace.
Les artistes et un photographe, Désiré Lutsono Kinzengele, expose depuis mardi sur les grandes figures de la rumba congolaise. Des clichés en noir et blanc qu'il garde jalousement depuis des décennies.
C'est des instants volés. Sans ça, je fais la photo. Quand je trouvais que c'est bon, le doyen Ricky Siméon, qui est aussi auteur-compositeur, il joue de la batterie. Francis Bichou Manou, c'est Célie Bichou. Michel Boibonda, bon, passionnément ce Ngongo, auteur-compositeur, guitariste. Rigobert Massengo Max, le chef de chef. D'abord, les photos sont en noir et blanc. C'est ma passion, mais aujourd'hui j'ai de la chance parce qu'on parle de la rumba à l'UNESCO.
Ainsi, la rumba ne s'arrête pas. Sur les pochettes de 33 ou 45 tours exposées dans le hall de l'Institut français du Congo, ici à Brazzaville, on peut découvrir les musiciens à succès et parfois des lieux cultes où se dansait cette musique. Jean-Basile Massamba de la maison culturelle Bissona Bisso.
Tous les orchestres qui ont eu à exister à partir des années 50, là où déjà commence l'industrie discographique, jusqu'à nos jours, en fait, jusqu'aux années 90 où le vinyle n'existe, n'a plus existé. Mais après, il y a le CD. Il y a maintenant les fichiers numériques. Mais montrer toutes les orchestres et les individualités qui ont fait la musique congolaise, qui ont fait rayonner l'histoire et le parcours de ce patrimoine-là qui est la rumba en tant que musique et danse.
La rumba devait être inscrite sur le patrimoine de l'UNESCO. À Brazzaville et à Kinshasa, les gouvernements se battent pour cette reconnaissance. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à toute la rédaction et à notre équipe de production. Jean-Roger Billon à ce micro. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.